Bonjour, exploratrices et explorateurs de la psyché et de la conscience. Je suis Véronique Brard et j'enseigne le Voss Dialogue. Le Voss Dialogue a été créé dans les années 70 par les docteurs Al et Sidra Stone et il n'a cessé d'évoluer depuis. Le but du Voss Dialogue est le développement d'un processus d'ego conscient. Dans ce podcast, je vais vous donner une image de ce processus. Je vais utiliser le mandorla pour vous donner une référence visuelle de ce que nous nommons processus d'ego conscient. Je vous invite donc à avoir, si possible, sous les yeux, le bulletin qui correspond à ce podcast. J'aimerais d'abord situer ce processus au sein de ce que nous, humains, nous nommons la conscience. Je vais vous donner quelques définitions qui vont des plus simples aux plus complexes. Puis je vous donnerai un aperçu de ce qu'est la conscience pour le physicien Nassim Haramein, avant de revenir au processus de conscience tel que Al et Sidra l'ont décrit, et vous parler de cette forme géométrique et de ce symbole qu'est le mandorla. Donc d'abord, quelques définitions piochées ici et là. La conscience, c'est se comporter en fonction de ses valeurs. La conscience, c'est la capacité à discerner, à réfléchir. La conscience, c'est la capacité à réfléchir sur nous-mêmes. La conscience, c'est la perception, c'est-à-dire une prise de conscience claire, par un individu de ce qui se passe à l'intérieur et hors de lui-même. La conscience est un concept abstrait, non définissable, elle apparaît à chaque instant, au moment exact où fusionnent les perceptions des sens et de l'esprit. La conscience, c'est ce dont l'univers est fait. La conscience est à l'origine de tout ce qui est. Tout est contenu dans la conscience, c'est le champ de tous les possibles. Et maintenant, voici ce que nous dit le physicien Nassim Haramein. Nous vivons dans un champ unifié de nature informationnelle et holographique. Ce champ, c'est la conscience. Ma conscience et celle de 7 ou plus milliards d'individus co-créent le monde dans lequel nous vivons, et ma conscience en particulier crée le monde dans lequel je vis. Nous sommes tout le temps en train de vivre nos propres créations. L'autre nous renvoie invariablement à qui nous sommes. La conscience est ma véritable nature, elle me permet de jouer tous les jeux, tous les personnages dans tous les temps. Pendant un certain temps, elle m'offre même le luxe de me perdre dans ses histoires. La conscience est le moteur, la force motrice de toute création. Elle a créé la matière, l'antimatière, d'innombrables univers. Les planètes de notre système solaire, les étoiles et même l'espace vide entre les deux, tout est rempli de vie et de conscience. La conscience est de l'information qui circule partout dans l'univers sous forme d'énergie-lumière, telles que photons, tachyons, neutrons, neutrinos, quarks et autres. Et enfin, le retournement de la conscience, c'est la réconciliation des opposés, le mariage des contraires. Alors comment situer le travail de Al et Sidra Stone dans ce contexte assez cosmiques, même s'ils ont des points communs. Disons que ces deux chercheurs se sont penchés sur la façon dont nous, humains, devenons conscients. Ils nous ont donné un modèle très pragmatique pour devenir de plus en plus conscients. La capacité à explorer notre multidimensionnalité, nos copersonnalités humaines ou transcendantales. Celle de développer une vision consciente, par essence bienveillante, et celle de développer un processus d'ego conscient capable de réunir dans un même champ les éléments des polarités psychiques que notre conditionnement nous a amenés à séparer. En effet, nos copersonnalités, en se développant, ont le plus souvent mis à la porte un des éléments de cette polarité. Un exemple: je valorise le service à l'autre et dévalorise le service à moi-même, ou en d'autres termes, l'égoïsme. Pour illustrer ce concept d'ego conscient qui réunit des polarités, je vais me servir du symbole nommé mandorla. Le mandorla est un concept qui nous vient de la chrétienté médiévale. Comme le mandala, c'est une figure géométrique qui a en elle-même un effet guérissant. Pour parler en quelques mots du mandala, le mandala, c'est un cercle sacré qui représente la totalité à l'intérieur de limites. Le travail sur le mandala, c'est un questionnement. Comment aller vers le centre? Tout part de ce centre pour aller vers l'extérieur, puis l'extérieur va revenir vers le centre. C'est comme un battement de cœur. Le mandorla, lui, est la forme en amande faite par deux cercles qui se chevauchent. Mandorla signifie amande en italien. Le mandorla est un symbole qui cherche à éveiller en nous le sens du un, le souvenir de notre unicité avec tout ce qui est. Nous sommes multiples et nous sommes un. L'humanité est multiple et pourtant une. Mandala et mandorla donnent un sens d'équilibre, d'unité et de totalité. Les dessiner, les contempler, nous permet de revenir au contact de ce que nous sommes au-delà de notre conditionnement. Ils sont à l'image de ce que notre essence cherche à exprimer. L'illimité dans les limites, l'infini dans une forme finie. Ces deux cercles qui se chevauchent et forment le mandorla représentaient pour la chrétienté le chevauchement du ciel et de la terre. L'espace dans lequel le ciel et la terre se recouvrent, l'espace du un. Les premiers chrétiens traçaient cette forme dans certains lieux en signe de reconnaissance. Les cercles qui avaient formé le mandorla n'étaient même plus dessinés, et ce signe qui restait en vague forme de poisson représentait le Christ, c'est-à-dire l'intersection entre le divin et l'humain. C'est dans ce mandorla que sont représentées dans les cathédrales les figures de la Vierge ou du Christ. Le mandorla n'est pas une place de neutralité ou de compromis. C'est le prototype de la réconciliation des opposés. C'est un guide hors du règne du conflit et de la dualité. La nature guérissante du mandorla vient de sa nature même, un espace où les opposés se rencontrent. Et c'est en cela qu'il est un magnifique symbole du processus d'ego conscient. Le mandorla permet de commencer à soigner la coupure entre les opposés. Il guérit ce qui n'est pas complet. Il nous incite à ramener ce qui manque dans notre personnalité, ou ce qui manque dans une société, dans une culture. Quand les éléments bannis par une culture ou par une personne demandent à être reconnus, créer des mandorlas permet de ramener ce qui avait été éliminé ou perdu. Créer des mandorlas est une façon de guérir si nous considérons la guérison comme le fait de redevenir complet. Le mandorla crée des liens entre des objets ou des concepts que nous avions jusqu'ici considérés comme opposés. Graduellement, les deux cercles disparaissent et il reste cet espace où ils se chevauchent. Par exemple, lorsque nous avons une certitude, lorsque nous énonçons ce que nous considérons comme une vérité, on peut inviter une certitude ou une vérité opposée, généralement venue de parties opposées à notre système primaire, et nous pouvons ainsi faire un mandorla entre deux mondes. Et ce mandorla sera toujours plus juste que n'importe quel point de vue particulier. Lorsque nous permettons à une personne également de parler sans l'influencer avec notre propre matériel et qu'elle nous permet d'en faire autant, entre ses conceptions et les nôtres se crée un mandorla. Les poètes font des mandorlas. Ils mettent ensemble des éléments opposés. Ils unissent le feu et la rose, par exemple. En fait, dans toute forme d'art, les opposés s'unissent et deviennent un. Et le mandorla, c'est la fluidité dans la tension des contraires. C'est la base de la danse, de la musique et de tous les arts de guérison. Le mandorla, cette intersection entre deux mondes qui se chevauchent, est la base de toute créativité. La vie humaine est en elle-même un mandorla. Elle est enracinée dans des opposés et elle cherche leur réconciliation. Nous réconcilier avec nos opposés ne dépend pas complètement de nous. Cependant, nous pouvons réhabiliter ce que notre conditionnement nous a amené à renier et ainsi préparer l'espace dans lequel le mandorla va se développer. Ainsi peuvent se créer dans notre psyché des mandorlas entre le féminin et le masculin, entre la vie dite spirituelle et la vie dite matérielle, entre l'amour et le pouvoir, entre ce que nous devons faire et ce que nous désirons faire, et ainsi de suite. Expérimenter énergétiquement un mandorla se fait de façon brève au début. Ensuite, nous retournons au monde de la dualité. Peu à peu, cependant, se dessine un espace dans lequel les opposés sont acceptés comme complémentaires. Un conflit que nous ne cherchons pas à résoudre et que nous pouvons supporter nous précipite dans un mandorla. Le mandorla est le prototype même d'une résolution de conflit qui se fait de façon spontanée, hors de toute logique, sans supprimer quoi que ce soit. Dans cette forme en amande, les couleurs des deux cercles peuvent se mêler et rester brillantes. Il n'existe pas de place pour la culpabilité ou la critique. Ni l'une ni l'autre n'ont de place dans le vécu complexe d'un paradoxe. Un paradoxe, ce n'est pas gris. Le mandorla n'est pas gris. L'espace du mandorla se perd lorsqu'un critique intérieur s'empare du paradoxe. Le critique va le réduire, le transformer en un piège dans lequel il nous nomme coupable. Le critique nous coupe du cœur du mystère de l'unité. Il met des mots autoritaires, réducteurs, enfermants, agressifs sur nos malaises et sur nos ressentis difficiles. Il n'a d'autre choix que de vouloir nous améliorer. Le critique n'a pas le sens du « un ». Le « un » dans la dualité lui est étranger. Le cadeau d'un ego de moins en moins identifié, de plus en plus conscient de la complémentarité des opposés et qui a la capacité de les contenir, est le fait de pouvoir laisser aller les jugements sur nous-mêmes. Laisser aller ces jugements que nous avons avalés depuis que nous sommes au monde. Laisser aller cette appartenance à une humanité qui juge et se juge en permanence. Je vais revenir maintenant sur ce processus d'ego conscient. Un processus d'ego conscient de la valeur des deux côtés d'une polarité amène à se désidentifier des copersonnalités qui ne portent qu'un élément de cette polarité. Comme un mandorla, ce processus se construit non par un effort de volonté, mais dans l'élan de réunir deux mondes opposés, au premier abord antinomiques. C'est un processus organique, ce qui veut dire qu'il grandit comme une plante grandit. Il nous faut cependant l'enraciner et lui donner notre attention. Plus on se décale d'une copersonnalité et de son monde, plus naturellement un de ses opposés peut venir participer à notre personnalité. Au début, nous ne faisons qu'observer à quel point vivre dans un seul monde nous limite et réfléchir à pourquoi nous dévaluons le monde opposé. Cette vision consciente, sans désir de changer, juste l'observation tranquille de ce qui est, avec la conscience de la valeur contenue dans le monde opposé, et ce qui va opérer. Cet état de témoin de ce qui est et la connaissance de la valeur des deux mondes, l'élan tranquille et patient vers le fait de les réunir, construit en temps et en heure un espace d'ego conscient, c'est-à-dire un mandorla d'où nous pourrons être, sentir, penser, agir différemment, car dans cet espace se trouve l'information unifiée des deux champs, des deux mondes. Ce que nous faisons pour nous rejaillit sur le monde. Prendre nos convictions les plus précieuses et accepter leurs opposés, c'est entrer dans l'acceptation de vivre des paradoxes créatifs et évolutifs. Cela développe notre conscience, cela nous soigne et soigne le monde. Nous allons regarder maintenant quels sont les mandorlas psychiques fondamentaux. Toute vie humaine est naturellement régie par plusieurs mandorlas fondamentaux. Malheureusement, certaines blessures venues d'expériences d'enfance ou de la compréhension enfantine de certaines expériences d'enfance nous font perdre l'équilibre généré par ces mandorlas naturels qui normalement se développent de façon spontanée chez tout enfant. Le mécanisme, c'est toujours le même. Un critique va essayer que certaines expériences difficiles ne se renouvellent pas et il va, dans ce souci de protection, venir dévaloriser ou interdire l'accès à l'un des mondes constitutifs du mandorla. Le rythme du vivant est alors perturbé. Citons dans ces grands mandorlas naturels de la vie humaine le monde de l'être et le monde du faire, le monde de être actif et le monde de être passif, le monde de la puissance et celui de l'impuissance, le monde de l'autonomie, celui de la dépendance. D'autres mondes encore, satisfaire l'autre, se satisfaire soi, faire ce que je dois, faire ce que j'aime, recevoir, donner, prendre, laisser, refuser, accepter, transformer, accueillir. Reconstruire en nous ces mandorlas qui ont été perturbés nous permet de retrouver notre vulnérabilité innée et notre pouvoir naturel, c'est-à-dire le rythme du vivant en nous. Il s'agit bien sûr d'un pouvoir sur soi qui n'a rien à voir avec le pouvoir sur l'autre et d'une vulnérabilité qui permet l'ouverture et n'a rien à voir avec l'état de victime. Je vais vous donner maintenant l'exemple d'un processus d'ego conscient vu comme un mandorla. La psyché, par exemple, remet régulièrement en scène certaines croyances appartenant à certaines de nos copersonnalités, adultes ou enfantines, ceci dans un but de conscience et de guérison. Dans le théâtre de nos vies, nous pouvons lire le résultat de ces croyances et le déséquilibre ou les blessures qui en résultent. Ces croyances ne sont pas des bugs à éliminer, elles signalent la présence d'une ou de plusieurs copersonnalités et de leur monde. Parfois, ce sont des croyances développées par des copersonnalités enfantines pour tenter de donner sens aux traumas vécus ou de les dépasser ou encore de faire avec. D'autres fois, ce sont celles de copersonnalités adultes qui se sont développées pour permettre à l'enfant de s'adapter. Malheureusement, ces croyances sont le plus souvent reprises et confirmées par celui qui fait tandem avec l'enfant victime, présent en chacun de nous, un critique devenu, disons, un abuseur psychique. Donc, si ma psyché recèle la conviction que je ne peux être que abandonné de Dieu et des hommes, la copersonnalité qui porte cette croyance mettra cette conviction en scène à un moment ou un autre. Je me retrouverai alors abandonné des dieux et des hommes. Cette conviction, tant qu'elle reste inconsciente, peut contrôler ma vie. Certains parleront de karma ou de vie antérieure, pourquoi pas. De toute façon, ces croyances pourraient être opérationnelles dans ma vie présente, ont été modelées à nouveau dans mes corps physiques et électromagnétiques par les expériences de mon enfance. Si je vois la pièce de théâtre et son metteur en scène, moi-même, je sors de la copersonnalité victime. Pourtant, ce n'est pas suffisant pour changer la pièce. Je vois les croyances inscrites dans ma psyché, je vois le bug, il est diagnostiqué, mais le schéma énergétique reste vivant. Il ne peut pas être arraché comme on arrache une mauvaise herbe. Une copersonnalité porte cette croyance. accueillir, explorer son monde et s'en séparer, sans entrer en guerre avec elle, est le jeu, J-E-U, proposé par la conscience. Développer une vision consciente amène à reconnaître cette copersonnalité qui porte ce savoir, insolite, inquiétant, abracadabrant, handicapant, ou source de remise en scène désastreuse. Penser à l'envers, je suis relié à Dieu et aux hommes, amène à considérer ou ressentir ce que pourrait amener une copersonnalité opposée. C'est le début du mandorla. Au niveau conceptuel, deux mondes opposés existent et sont reconnus. Dans ce mouvement hors du conditionnement porté par la copersonnalité, je ne peux être que abandonné de Dieu et des hommes, les peurs de la petite victime ou de l'enfant traumatisé ou de l'enfant maltraité vont surgir. Développer un adulte bienveillant envers cet enfant est le chemin. Même si un enfant reste identifié à la première croyance, l'adulte bienveillant permet à un autre enfant, un enfant aimé, d'émerger, d'être retrouvé ou d'être tricoté s'il n'existait pas. C'est le commencement d'un vécu possible de la seconde croyance « Je suis relié à Dieu et aux hommes », source d'un meilleur équilibre et d'un sens plus ajusté de soi-même. Sous l'égide d'une vision consciente de ces deux mondes, un processus d'ego conscient va se développer, c'est-à-dire un espace énergétique où je pourrais me tenir consciemment et concrètement entre ces deux mondes sans que l'un n'annule l'autre. Ce processus va m'amener à me décaler de la copersonnalité qui porte la conviction première sans la violenter, sans lui faire la guerre, sans l'abandonner. Ce verbe « se décaler » ou « se désidentifier », souvent employé en voice dialogue, ne signifie pas négliger ce dont on est séparé. L'exemple, c'est lors de l'accouchement, la femme se sépare de son enfant, très littéralement, et elle peut du coup le prendre dans les bras. Ainsi, une personne séparée d'une copersonnalité, jusqu'ici invisible et toute puissante, peut maintenant l'apercevoir et percevoir ses raisons d'exister. Elle peut s'en occuper. Désidentifiée de cette copersonnalité, elle perçoit aussi la valeur ou tout simplement l'existence, la présence du monde qu'elle tentait de supprimer. Ainsi, l'ego conscient est un espace informé. Développer le cercle opposé, je suis relié à Dieu et aux hommes dans notre exemple, demande du temps. En effet, si l'expérience d'un de mes jeux, J-E, valide la première croyance, je suis abandonné de Dieu et des hommes, ce jeu et son monde doit d'abord être dévoilé, exploré, révélé. Pour qu'une copersonnalité puisse accepter le travail de conscience, elle doit être vue et reconnue. La juger ou la nier, la détester, la reléguer aux oubliettes ne fait qu'aggraver ses convictions d'abandon et générer encore plus de malaise. Si j'abandonne le je, J-E, qui porte la conviction « je suis abandonné de Dieu et des hommes », je ne fais que le confirmer dans son ressenti. Cette copersonnalité a besoin de bienveillance et de réassurance. La rencontre et l'exploration de la copersonnalité qui porte une croyance limitante est la clé de la transformation. Le but est qu'elle sorte de l'inconscient, se sente accueillie, reliée et en sécurité. Comme tout être vivant, elle se dévoilera si elle se sent comprise. Dans ce sens, la psyché nécessite moins certains réajustements que l'accueil de toutes les copersonnalités rencontrées. Une copersonnalité considérée se détend, nous parle, nous dit ses besoins, ses peurs, ses mémoires. Le facilitateur peut explorer les expériences qui ont donné naissance à cette copersonnalité et à ses convictions. Les expériences peuvent être validées, tout en soulignant, si nécessaire, que l'interprétation des faits gagnerait peut-être à être remise en question. La conviction « je suis abandonné de Dieu et des hommes » peut être, par exemple, celle d'une copersonnalité adulte qui vient se plaquer sur une expérience de nourrisson, une expérience non reconnue. Le nourrisson peut avoir des ressentis d'abandon extrême. L'acceptation de sa façon de percevoir est nécessaire. L'est tout autant le discernement pour ne pas confondre la gravité des perceptions, émotions et ressentis d'hier avec ce qui se passe aujourd'hui. L'enfant, avec son système nerveux immature, était en danger. L'adulte d'aujourd'hui ne va pas mourir de ce qu'il ressent. Le discernement est nécessaire, tout comme une certaine autorité, pour remettre les choses dans une nouvelle perspective, dénouer les convictions faussées, parfois sortir du délire. Lorsqu'elles sont explorées, les copersonnalités et leur monde évoluent, et leur intersection, le mandorla, évolue également. Une danse prend place entre celui qui se sent abandonné et celui qui est relié. Une difficulté existe lorsque la copersonnalité qui confirme et fait perdurer, voire rend toute puissante les croyances développées par un enfant, est un abuseur psychique. Lorsque la personne est identifiée à cet abuseur, lorsqu'elle ne le voit pas, lorsqu'aucune remise en question de ses certitudes n'a jamais eu lieu, étirer cette copersonnalité n'est pas toujours souhaitable. Il est important de ne pas la conforter dans ses croyances et convictions. L'urgent est d'induire une séparation entre le facilité et cette copersonnalité. Plus tard, lorsque le facilité n'est plus sous hypnose par rapport à cet abuseur psychique, lorsque le facilité se rend compte que cette copersonnalité ne fait qu'interpréter certains faits et non dire la réalité sur lui, le travail d'exploration de cette partie peut aussi se faire. Le danger de l'enraciner étant écarté, elle peut être accueillie. Il est réconfortant d'être suffisamment séparé d'une copersonnalité pour la distinguer et ne plus être happé ou kidnappé par ses ressentis et ses automatismes. Lorsque nous vivons sa terreur, son angoisse, son sentiment d'abandon ou d'urgence comme les nôtres, nous sommes kidnappés par elle. Lorsque nous mettons en acte les colères, rages ou autres comportements issus de ces blessures, nous sommes kidnappés par elles. Si nous prenons la comparaison avec le mandorla, nous vivons dans le premier monde. Lorsque le second monde, je suis relié à Dieu et aux hommes, peut être expérimenté sans renier le premier, les deux mondes sont compris comme des réalités fondées sur des expériences différentes. Il devient possible de sortir de la prison des premières expériences pour s'élargir à de nouvelles. La personne, libérée d'un passé devenu énergétiquement conscient, peut s'ajuster au présent. Une réactualisation organique se met en place. J'ai pris ici un exemple qui peut sembler dramatique ou lié à la religion. Mais derrière les croyances qui posent problème, ou le développement de copersonnalités qui empêchent de trouver son équilibre, se tiennent des croyances de cet ordre. Elles peuvent certes s'exprimer très différemment, comme « je n'ai pas de valeur »,« je ne mérite pas d'être aimé », »,« je ne peux pas être aimé » ou « je ne peux être aimé que si je suis au service des autres »,« ma valeur est de me mettre au service », »,« je n'ai pas le droit d'avoir de l'argent, d'être heureux, d'avoir du plaisir ». Je suis désespérément seul, je suis exclu, peut aussi faire partie du tableau. Le tout petit que nous étions a été coupé très tôt du sens intrinsèque de sa valeur en tant qu'âme venue expérimenter la vie sur Terre en s'associant à un incroyable et magnifique corps humain. La plus grande blessure que nous pouvons faire à un enfant et ce déni de l'âme qui amène la perte du sentiment de légitimité et d'appartenance, la perte du lien avec la réalité immanente qui soutient toute vie. Le jeu, J-E-U, difficile, est de reconnaître dans les ressentis et émotions du présent les blessures d'hier. Cela nous demande de vivre nos blessures et angoisses d'aujourd'hui comme appartenant davantage au passé qu'au présent. Cela nous demande de les considérer comme des réalités émotionnelles du passé qui demandent à être reconnues aujourd'hui dans toute leur intensité. Ce ne sont pas des réalités intellectuelles pouvant être analysées ou discutées. Ce sont des émotions du passé qui n'ont pas pu être vécues pleinement car elles étaient trop perturbantes pour l'enfant que nous étions. Elles ont été mises de côté, elles reviennent dans notre vie présente et demandent reconnaissance et rédemption. La blessure initiale est inscrite dans nos différents corps. Elle est toujours incarnée par un enfant victime qui porte une connaissance, un savoir, des certitudes et des émotions issues de ses expériences. Cette petite victime a donné naissance à certaines de nos copersonnalités adultes, elle en est la racine. Elle a besoin de notre attention et de notre empathie. Elle tient dans ses mains une partie de notre histoire. C'est une copersonnalité émotionnelle, donc non raisonnable et non logique par nature. Elle ne peut pas être raisonnée. Mais si on lui donne notre attention, quelque chose peut changer. Créer un mandorla entre le monde de l'enfant victime où règne également un persécuteur ou abuseur psychique et celui du pouvoir sur soi avec un enfant vulnérable, reconnu et protégé, redonne accès à la magie de la vie. Pour cela, nous avons besoin de nous regarder d'une façon qui laisse aux vivants le temps de se guérir. C'est un chemin qui passe par l'amour de soi. Le but est de se séparer, de divorcer des copersonnalités qui ne nous servent plus, tout en les reconnaissant et les apaisant. L'attachement conscient ou inconscient à leur mémoire crée souvent une identité ou des histoires dans lesquelles nous finissons par nous enfermer. Et cela ne sert pas à la conscience. Je vais vous donner une citation de Myriam Dror qui appartient au mouvement SAND, Science et non-dualité, guérir les traumas. Elle dit « Notre cœur, au plus profond de nous-mêmes, pleure de douleur lorsqu'il a la sensation que notre vie se rétrécit au lieu de s'élargir. » Dans l'obscurité de la forêt dans laquelle nous sommes retournés, sur ce sentier, des décombres, des détritus, des croyances sont à déblayer, des histoires qui ne sont plus les nôtres à lâcher ou à transformer. Nous arrivons à la fin de ce podcast. J'espère que cette image du mandorla vous a permis de mieux comprendre ce que nous voulons dire par processus d'ego conscient. L'ego conscient n'existant jamais en soi, mais pouvant être développé en fonction de deux copersonnalités jusqu'ici opposées. J'ai mis à la fin du bulletin 119, associé à cet audio, un petit texte intitulé « S'exercer à créer des mandorlas, penser à l'envers ». Je vous laisse le découvrir. Je reviendrai prochainement sur cette notion de copersonnalité qui est l'une des bases pour comprendre le Vos Dialogue. Merci de votre écoute et à bientôt. C'était Véronique Brard. Vous trouverez plus d'infos sur le Vos Dialogue sur mon site voice-dialogue-france.fr.